Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi s'habitue-t-on aux odeurs? Un texte de Mathieu Perrault paru le 10 mai 2026 dans la presse. Des gens peuvent-ils s'habituer à une odeur au point de ne plus être capables de la détecter? Demande un lecteur, Jean Pellerin. Certainement, et c'est un domaine de recherche très actif en biologie. S'habituer aux odeurs permet de diminuer une réponse qui n'est pas utile pour la survie, explique le biologiste Robert Pellegrino de l'Université Texas A&M. Dans la forêt amazonienne, si on remarque trop l'odeur des herbes et des arbres, on ne détectera peut-être pas un prédateur. L'habituation existe pour tous les sens, mais elle est difficile à étudier pour l'odorat parce qu'elle survient très rapidement. Quand on étudie l'habituation visuelle, par exemple, on peut réintroduire une image déjà vue plus loin dans une séquence d'images sans qu'il y ait nécessairement d'habituation, dit M. Pellegrino. Mais on s'habitue à une nouvelle odeur dès la première fois. Ça montre l'importance de l'odorat pour la survie humaine. M. Pellegrino en sait quelque chose. Il travaille sur les impacts perceptuels des odeurs. Il a publié en 2017 dans Physiology and Behavior une revue de littérature sur l'habituation aux odeurs. Pour compliquer l'étude de ce phénomène, l'habituation aux odeurs dépend beaucoup de l'attention. Des chercheurs italiens ont montré que si on dit à des cobayes qu'une odeur émane de nourriture ou non, par exemple l'odeur de vanille qui peut provenir d'un gâteau ou d'une chandelle, ils vont moins s'habituer à l'odeur s'il s'agit de nourriture, dit M. Pellegrino. On porte plus d'attention à une source potentielle de nourriture. M. Pellegrino cite par exemple une étude du célèbre centre Monell de Philadelphie, spécialisé dans le goût et l'odorat, qui a montré qu'en disant à des participants qu'une odeur était dangereuse ou sûre, on pouvait moduler leur habituation à l'odeur. L'habituation était plus lente pour l'odeur définie comme dangereuse, dit le biologiste. Quand on cherche une plante comestible dans la savane, il faut être très attentif à son odeur. C'est pour cette raison qu'on ne sent pas la même chose qu'un invité quand on entre dans sa propre maison ou dans sa propre voiture, où on se sent en sécurité. Même si on est parti en voyage pendant une semaine, on ne va pas être surpris par l'odeur de sa maison, dit M. Pellegrino. L'attention explique aussi probablement les différences entre individus pour ce qui est de l'habituation aux odeurs. Il n'est pas rare qu'au sein d'un couple, une personne soit plus sensible que l'autre, dit-il. Ça reflète probablement une attention différente à l'environnement ou à certains aspects de l'environnement, ou alors certains rôles sociaux, par exemple les rôles traditionnels des femmes ou des hommes. Un processus neuronal. L'habituation aux odeurs s'appuie sur un processus neuronal d'adaptation qui est mal connu. On n'a pas vraiment de manière de mesurer l'activation de certains neurones impliqués dans l'odorat, dit M. Pellegrino. On comprend certains des processus chimiques impliqués dans l'habituation, mais pas tous. Outre le mystère de l'adaptation neuronale aux odeurs, la prochaine frontière des recherches sur l'habituation sera la perception spatiale des odeurs. On ne comprend pas comment l'humain se repère dans une scène olfactive, dit M. Pellegrino. Comment fait-on pour découvrir où se trouve une fuite de gaz ou la source d'une mauvaise odeur? Quel est l'impact clinique dans le monde réel des recherches sur l'habituation aux odeurs? Une habituation beaucoup plus rapide ou plus lente que la normale pourrait être liée à certains problèmes médicaux, dit M. Pellegrino. Il se pourrait aussi qu'une meilleure compréhension de l'habituation aide à améliorer la rééducation olfactive qui sert notamment après des troubles créant des difficultés d'odorat, comme la COVID-19 ou certains cancers. On ne sait pas vraiment comment fonctionne sur le plan neuronal la rééducation olfactive, dit M. Pellegrino. En savoir plus. Source Journal of Gerontology. 1,5 fois. Risque de perte d'odorat chez les hommes de plus de 65 ans par rapport aux femmes. 2 fois. risque de perte d'odorat chez les personnes de plus de 85 ans par rapport aux 70-74 ans. C'était « Pourquoi s'habitue-t-on aux odeurs? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 mai 2026 dans la presse.
La résistance de l'économie américaine surprend, mais n'est pas éternelle. Un texte de Myriam Lemétayer de l'agence France-Presse, paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir. Droits de douane, flambée des prix de l'énergie. Même pas peur, semble rétorquer l'économie américaine. Ces chocs successifs la fragilisent pourtant chaque fois un peu plus, soulignent des économistes. Une situation que le président Donald Trump adore s'est répétée à plusieurs reprises depuis son retour au pouvoir. Des prévisions économiques sont démenties, il les taxe de catastrophiste et déduit que ses politiques fonctionnent. Il balaie, à l'inverse d'un revers de main, les mauvaises nouvelles. Exemple, l'inflation est apparue au plus haut depuis quasiment 3 ans. La guerre qu'il a déclenchée contre l'Iran, commençant à faire grimper les prix en cascade, mais le chef de l'État a assuré que c'était de court terme et préféré insister sur la santé insolente de Wall Street. Le hic, c'est que la bourse n'est pas l'économie, remarque l'économiste en chef de Moody's, Mark Sandy, interrogé par l'AFP. Selon lui, le boom boursier en cours ne dit rien des fondamentaux de la première économie mondiale, mais semble évoluer de manière autonome face aux immenses espoirs placés dans l'intelligence artificielle, IA. Il note que ce même essor de l'IA contribue à voir les États-Unis en rose. Il génère d'importantes dépenses d'investissement, fait grimper la valeur des actions et donc crée beaucoup de richesses parmi les plus aisés, stimulant leur consommation. Sur le papier, d'ailleurs, les chiffres ne sont pas alarmants. 2 % de croissance en rythme annualisé au premier trimestre, 4,3 % de chômage. Mais Mark Sandy met en garde. Après avoir encaissé de nombreux chocs sans tomber en crise, l'économie se trouve désormais dans une situation très précaire. Quasiment aucun emploi n'a été créé depuis l'annonce des droits de douane massifs de Donald Trump il y a 1 an. Il suffit qu'il y ait un peu moins de demandes pour que les entreprises commencent à licencier, pense l'expert, qui décrit la poussée inflationniste comme un véritable test pour l'économie. Si la guerre au Moyen-Orient prend fin rapidement, poursuit-il, on devrait réussir à s'en sortir. Mais si ça continue 2-3 mois, j'ai peur que ce soit insurmontable. Une position à l'opposé de l'optimisme du conseiller économique de Donald Trump, Kevin Hassett. Il a déclaré pendant le week-end sur Fox News que les prix de l'essence baisseraient avant les élections législatives de mi-mandat en novembre 2026 et que la croissance pourrait être supérieure à 4 %, 5 %, même à 6 % à la fin de l'année. Vulnérable. On n'est encore qu'au début des hausses de prix liées à la crise énergétique. On ne sait pas encore comment les Américains vont réagir, dit à l'AFP Claudia Sam, économiste pour le cabinet d'investissement New Century Advisor. C'est vrai qu'il y a de la résilience, mais elle n'est pas éternelle, ajoute-t-elle. Elle considère néanmoins que l'inflation ne fera pas à elle seule dérailler l'économie, même si, sur le plan politique, Donald Trump le paiera cher si les prix de l'essence ne baissent pas d'ici novembre 2026. Le pays a l'avantage d'être le premier producteur mondial de pétrole, ce qui atténue quelque peu l'impact du blocage du détroit d'Ormuz, note Mme Sarm. L'économiste s'est aussi rendu compte qu'il en fallait beaucoup pour déstabiliser l'économie américaine, sortie plein gaz de la pandémie de COVID-19. Tous les surcoûts qu'on a vus récemment, les droits de douane, les prix de l'essence, ne suffisent pas à faire dérailler une économie qui pèse plus de 30 000 milliards de dollars. Elle estime aussi qu'une grande partie du pays ne prête pas attention à ce qui se passe à Washington. Claudia Sham n'exclut pas totalement un effondrement de l'économie américaine, mais suppose que ce scénario impliquerait une crise de confiance plus générale à l'égard de l'IA en particulier. Malgré tout, à force de choc, nous avons aujourd'hui moins de soupapes qu'il y a quelques années. On est plus vulnérable. C'était « La résistance de l'économie américaine surprend, mais n'est pas éternelle », un texte de Myriam Lemétayer de l'agence France-Presse paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir.
Québec et Ottawa reculent sur la protection du chevalier cuivré. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir. Les gouvernements du Québec et du Canada ont décidé de sabrer dans des mesures de protection du chevalier cuivré, une espèce au seuil de l'extinction, a appris Le Devoir. Ces décisions surviennent alors que le fédéral est poursuivi pour avoir autorisé le port industriel de contrecœur à détruire une partie de l'habitat essentiel à la survie de ce poisson qui existe uniquement au Québec. Selon ce qu'on peut lire dans un document obtenu par Le Devoir, le gouvernement caquiste a décidé de suspendre la publication des nouveaux plans de rétablissement du chevalier cuivré, mais aussi les rencontres de l'équipe de rétablissement de cette espèce en voie de disparition, et ce pour au moins un an. Cette équipe, qui existe depuis plus de 20 ans, compte notamment le ministère de l'Environnement du Québec, Pêche et Océans Canada, Parc Canada, des comités voués à la protection des cours d'eau, mais aussi le Biodôme de Montréal. Ce regroupement d'experts, de scientifiques et de représentants du gouvernement du Québec et du Canada coordonne les efforts de conservation de cette espèce, dont l'habitat se limite à une petite portion du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. Pour justifier sa décision, le gouvernement caquiste fait valoir que le ministère de l'Environnement a entrepris une réflexion visant à moderniser l'approche du rétablissement au Québec, mais sans donner davantage de détails. Dans la lettre signée par le directeur principal de la Direction principale des espèces menacées ou vulnérables, Antoine Nappy. Cette suspension a été décidée avant la publication du prochain bilan de rétablissement du chevalier cuivré, dont il ne subsiste que quelques centaines, voire quelques milliers d'individus. En réponse aux questions du Devoir, le ministère de l'Environnement assure toutefois que le programme de reproduction artificielle de l'espèce est maintenu. Depuis près de 20 ans, ce programme permet de produire en captivité puis d'ensemencer de jeunes chevaliers cuivrés dans la rivière Richelieu, où l'on retrouve les deux seules frayères connues de l'espèce. Frayères sans surveillance. Une de ces frayères, qui est considérée comme la plus importante, se situe dans un secteur désigné comme le refuge faunique Pierre-Étienne Fortin, au rapide de Chambly. Or, même si la protection de cet écosystème est cruciale pour la survie du chevalier cuivré, Le Devoir a appris que le gouvernement fédéral a décidé de supprimer le financement qui était accordé par MPO pour la surveillance de ce milieu naturel protégé. Une interdiction de toute présence humaine dans le refuge a été mise en place entre le 20 juin et le 20 juillet, période de reproduction du chevalier cuivré. Depuis plusieurs années, le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu effectuait donc une surveillance et des activités de sensibilisation dans ce secteur en période estivale. Il faut dire qu'en été, le refuge est très fréquenté par les plaisanciers, mais aussi les pêcheurs et les baigneurs. Or, comme le reconnaît lui-même MPO, ces activités constituent une menace au rétablissement de l'espèce, d'où l'importance du gardiennage financé par le fédéral pour faire respecter la réglementation. Dans un rapport publié le 6 mai dernier et intitulé « Progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement pour la période 2019 à 2023 », MPO reconnaissait d'ailleurs l'importance du travail de sensibilisation du COVABAR. Directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec et spécialiste du chevalier cuivré, Alain Branchaud déplore la décision du gouvernement fédéral de sabrer dans la surveillance de ce site de frais. Le refuge faunique Pierre-Étienne Fortin abrite la plus importante frayère de chevaliers cuivrés au monde. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de s'assurer que la loi sur les espèces en péril est respectée et mettre fin à la surveillance durant la période de frais de l'espèce serait une grave erreur, tant d'un point de vue légal que de conservation, fait-il valoir. M. Branchaud critique aussi la décision du gouvernement du Québec de suspendre les rencontres de l'équipe de rétablissement de l'espèce. Il souligne que celle-ci survient alors que le gouvernement fédéral est ciblé par une action en justice en raison de sa décision d'autoriser la destruction de portions de l'habitat essentiel du chevalier cuivré pour la construction du port industriel de Contrecœur. Ces milieux naturels considérés comme cruciaux pour la survie de l'espèce seront détruits lors du dragage du fleuve Saint-Laurent sur une superficie équivalent à 20 terrains de soccer. Le gouvernement caquiste s'était opposé, pour sa part, à la protection de cet habitat, qui est une obligation inscrite dans la Loi sur les espèces en péril du Canada. Québec y voyait un obstacle potentiel au développement économique, dont le port de Contrecœur. C'était Québec et Ottawa reculent sur la protection du chevalier cuivré, un texte d'Alexandre Shields, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir.
Mes lieux militants. Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Afin de célébrer la 500e publication du Fugue, qui constitue en soi une prouesse pour un magazine LGBTQ+, qui se présente en version papier depuis 1984, j'avais envie de réfléchir à ces lieux de militantisme qui m'habitent depuis la jeune vingtaine. Militante un jour, militante toujours. Militer, c'est s'engager dans l'action pour une cause qui nous tient à cœur, mais à mon sens, c'est souvent une posture politique, voire un état d'être. Certains sont militants dans le sang. Vous savez, ceux qui s'insurgent et montent aux barricades pour défendre la veuve et l'orphelin dès qu'il y a injustice. Personnellement, une simple injustice peut perturber mon sommeil pendant des jours. Cela dit, tout perturbe mon sommeil. J'ai fait mon coming out début vingtaine, aidé par les Anne Trister. À tout prendre, il était une fois dans l'Est et autres représentations cinématographiques LGBT de ce monde. J'écrirai d'ailleurs un mémoire de maîtrise sur le sujet, puis, près de 20 ans plus tard, j'en publierai un livre chez McGill Queen's University Press. Sans même le savoir, l'écriture fut mon premier lieu et geste militant. Une façon de m'engager dans la réflexion quant à la représentation des LGBT au cinéma et, intrinsèquement, dans la société. Le cinéma, qui deviendra pour moi un autre lieu militant, m'a permis de réfléchir ma place en société et de la revendiquer. Je me souviens qu'après avoir fait mon coming out et vu tous ces films à l'université, j'ai enlevé mes lunettes roses. On dit que le cinéma fait rêver et divertit. Certes, les grands films nous font aussi réfléchir et portent en eux des germes militants. Mon premier film, réalisé pour le compte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, était d'ailleurs un compte-rendu des premiers Outgames mondiaux tenus à Montréal à l'été 2006. Lors de ce stage à la CDPDJ, j'avais participé à la recherche menant au rapport de l'égalité juridique à l'égalité sociale, vers une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie, 2007, qui dressait un portrait de l'homophobie et proposait des mesures concrètes. Cet important rapport, chapeauté par Monique Audet, a d'ailleurs mené à la politique québécoise de lutte contre l'homophobie en 2009, une politique qui demeure à ce jour l'une des pièces maîtresses de l'action gouvernementale en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Militer, c'est aussi et surtout poser des actions dans l'ombre, parfois même bénévoles, pour faire avancer nos sociétés. Parlant d'implication bénévole, j'ai ensuite été chargée des communications sur le conseil d'administration de l'ensemble vocal Extravaganza, pour lequel j'étais choriste. Après l'écriture et le cinéma, la musique sera pour moi un autre lieu militant privilégié. Ayant écrit un texte pour publiciser le prochain concert de la chorale, je l'ai envoyé au Fugue. Quelques mois plus tard, j'étais embauchée comme journaliste pigiste au magazine. Au-delà de textes sporadiques sur la culture et la communauté, j'avais cette section nommée « Interview » qui proposait des portraits de lesbiennes impliquées dans la communauté afin de rendre visibles leurs paroles et leurs initiatives. J'aime bien ce caractère militant inhérent au journalisme, particulièrement dans le communautaire. On ne le fait pas pour la paye, mais pour la cause. Une cause qui, socialement, n'a pas toujours été acceptée ou en vogue, rappelez-vous. Je me souviens avoir, quelquefois, été traitée comme une sous-journaliste, pratiquant un sous-métier avec un sous-sujet lors de conférences de presse avec les médias grand public. Pour moi, écrire pour Fugue, c'est d'autant plus un geste militant. C'est aller à contre-courant. Bien sûr, il y a une époque où associer son nom et sa photo à un magazine LGBT était plus préjudiciable et certains de mes collègues pourraient vous en parler davantage, mais il m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires désobligeants lors de mes débuts dans le métier, il y a 18 ans. C'est notamment pour cette raison que j'ai accepté, il y a près d'une dizaine d'années, d'écrire une chronique qui s'accompagne inévitablement d'une photo. C'est la règle dans le métier. Non pas par narcissisme, mais pour identifier la réflexion à une personne réelle qui, je l'espère, sans nécessairement être considérée comme un modèle, peut inspirer celles et ceux qui auraient honte de leur orientation sexuelle à s'accepter. Bref, devenir en quelque sorte le porte-étendard d'une cause est nécessairement un geste militant. C'est également pour cette raison que, dans mon premier album, à titre d'auteur-compositrice-interprète intitulé « Confession » 2014, j'avais décidé de me confesser authentiquement par le biais de mes chansons pour dévoiler mon homosexualité, mes ruptures amoureuses et l'état sociétal. Je crois que la musique est un art puissant pour passer des messages et même militer pour certaines causes. Prenez la chanson « Imagine » de John Lennon. C'est un appel à l'action pour la paix par l'engagement social. Et ce message des années 70 ne perd pas de sa pertinence aujourd'hui, tout comme ces jeunes hippies au festival de Woodstock en 1969 qui désiraient protester contre la guerre du Vietnam par le pouvoir de la musique. Mon second album, « Flower Power Soul » 2017, rend d'ailleurs hommage à cette époque. Rendre hommage, c'est aussi mettre de l'avant les figures militantes qui se sont battues avant nous et célébrer leur engagement. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit la chanson « En plein cœur » en 2019 pour Maison Plein cœur, qui a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH et que j'ai été porte-parole pour l'organisme pendant des années. Mon action communautaire ne s'arrête pas là. J'ai aussi été responsable des communications pendant 5 ans au Réseau des lesbiennes du Québec. Avec la directrice générale de l'époque, Julie Antoine, j'ai eu la chance de militer en ce lieu en utilisant mes forces militantes, l'écriture, le cinéma et la musique. Je pourrais vous parler de la fameuse anthologie « Archives lesbiennes d'hier à aujourd'hui » 2023, qui revisite l'histoire lesbienne de la Grèce antique à aujourd'hui, où j'y ai mis mes talents de journaliste à profit, ou encore de la myriade de personnalités du milieu présentées dans les livres de « Portraits pour les journées de visibilité lesbienne », sans oublier notre bande dessinée « Lesbo Queer » 2019. Et que dire des films réalisés qui ont été présentés dans plusieurs festivals à travers le monde? Du film expérimental « Femmes, réflexion identitaire » 2018 au film d'animation « Amour irisé » 2022, sans oublier le documentaire « Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, 40 ans plus tard, 2022 », co-réalisé avec Dominique Bourque et Feu Joanne Coulombe, qui voyage encore en festival près de 4 ans après sa réalisation. Je crois fortement en l'art comme lieu de militantisme. En ce sens, militer, c'est aussi, pour moi, produire de l'art. Lorsque l'art est diffusé, il rejoint son public, passe son message, génère l'engagement et parfois même l'action. Enfin, je pourrais également citer des lieux militants plus conventionnels. Je ne compte plus les fois où j'ai manifesté dans la rue avec une pancarte pour les droits des femmes, des LGBT, où j'ai pris part à des événements où la visibilité et l'engagement peuvent devenir une forme de militantisme, que ce soit lors des défilés de Fierté Montréal, la Dyke March, la Journée de visibilité lesbienne, lors de la Journée du 17 mai contre l'homophobie, en faisant une conférence au Gris, en chantant avec les nanas, en prodiguant la tournée « Empowerment des femmes LGBT » dans les universités, et enfin, en enseignant le cinéma aux jeunes, en leur présentant des œuvres d'artistes militants qui voient le monde différemment et qui s'engagent à travers l'art. Et surtout, en leur montrant à développer leur pensée critique afin qu'un jour, ils deviennent eux-mêmes militants. C'était « Mes lieux militants », une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.